RCF.
Le 31 octobre 1517 peut être considéré comme la date de naissance du protestantisme. Ce jour-là, le moine Luther affiche aux portes de la chapelle du château de Wittenberg 95 thèses qui mettent en cause les pratiques, disons, douteuses qui ont cours dans l'Église. Tout ceci, bien sûr, est à mettre dans un contexte, et si cette date est très symbolique, elle s'inscrit dans un processus historique et religieux. Nous allons retracer ce processus et nous replonger dans ce contexte religieux et historique avec vous, Yves Krummenacker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Lyon 3. Vous êtes spécialiste du protestantisme et de religion de manière générale. Vous êtes notamment l'auteur chez Ellipse de deux biographies très récentes, l'une consacrée à Luther et l'autre à Calvin. J'aimerais tout d'abord vous demander en quoi, pour un historien, cette date du 31 octobre 1517 est marquante dans la mesure où elle aurait pu ne pas avoir l'effet qu'elle a eu. Après tout, Luther aurait pu être arrêté, condamné, tout ça aurait pu s'arrêter très vite. Or, on va voir avec vous le retentissement et l'impact absolument phénoménal que tout ceci a eu. D'un point de vue historique, c'est assez fascinant ce processus.
Tout à fait, puisque des tentatives de réforme de pratique de l'Église ou de la théologie de l'Église ont eu lieu. C'était assez fréquente à cette époque, dans les milieux humanistes, dans certains milieux monastiques également, mais elles n'ont pas abouti à des bouleversements de ce type. Alors, cette date du 31 octobre 1517, de ce point de vue, est très particulière. Elle pose d'ailleurs problème, puisque Luther ne s'est sans doute pas rendu compte, et personne ne s'est rendu compte le 31 octobre, que quelque chose de fondamental se passait. La prise de conscience d'une rupture dans la chrétienté est venue quelques années plus tard et progressivement, sans doute. Mais assez vite, la première vie de Luther, par exemple, par Melanchthon, donne cette date comme début de la réforme.
Alors on va essayer de retracer avec vous cette histoire, Yves Krummenacker, en évoquant un contexte d'ailleurs. On est là à la fin du Moyen-Âge. Qu'est-ce qui caractérise l'Église à ce moment-là, l'Europe et peut-être même le monde ?
On va commencer par le monde peut-être.
On va faire dans ce sens-là.
Le monde commence à être davantage connu par les Européens. On est dans la période de ce qu'on appelle les grandes découvertes. Alors, découvertes pour les Européens uniquement, évidemment. Mais c'est un monde qui va rester en grande partie inconnu à Luther. Il ne se rendra pas vraiment compte de cela. En revanche, ça a des répercussions sur son message, sur son environnement tout d'abord, parce que cela va permettre d'activer une transformation économique où on passe d'une économie essentiellement agricole à une économie d'échange, de commerce, et cela permettra aussi aux idées de circuler. Une des explications possibles au succès de Luther, c'est cette diffusion rapide des idées.
Qui évolue aussi, vous parliez des humanistes, ils se font entendre, ils s'expriment de manière plus marquante qu'auparavant.
Alors, ils s'expriment beaucoup, peuvent s'exprimer plus facilement grâce à l'imprimerie qui naît au milieu du 15e siècle. Ils restent malgré tout des membres d'une élite qui s'adresse essentiellement à une élite. Ils écrivent pour beaucoup en latin. Alors, certains veulent s'exprimer dans les langues vernaculaires, les langues du peuple, et proclament l'excellence de ces langues. C'est ce que fait Dubellay, par exemple, pour la France. Mais globalement, c'est un message complexe, un message savant qui ne s'adresse pas au peuple, ce qui ne sera pas le cas de Luther, qui pourra combiner des traités assez savants avec toutes sortes d'écrits beaucoup plus populaires.
Donc une période marquée par des mutations quand même assez profondes.
Alors, mutation profonde, oui, dans l'économie, dans la communication avec cet imprimé, transformation profonde au niveau politique aussi, et notamment dans le Saint-Empire romain germanique, où vit Luther.
En ce qui concerne l'Europe, là, cette fois.
Donc, on arrive en Europe, oui, où on a un empire puissant, à la tête duquel se trouve un membre d'une des familles sans doute les plus importantes d'Europe, les Habsbourg, mais un empereur qui doit composer avec les très nombreux seigneurs, ducs,
un empire assez morcelé.
Voilà, un empire très morcelé, oui, il y a plusieurs centaines d'entités politiques qui composent cet empire romain germanique.
Et chacune de ces entités pèse.
Oui, plus ou moins. Elle pèse effectivement. L'empereur ne peut pas vraiment faire respecter ses lois s'il n'a pas l'accord de ses différents princes. Il n'a pas d'armée à proprement parler. S'il veut partir en guerre, il doit avoir le soutien de ses seigneurs. Et donc, il dépend en partie d'eux. Il est élu par eux, ou moins par certains d'entre eux, puisque sept princes font l'élection.
Des sortes de grands électeurs.
Oui, si on peut dire, oui.
Est-ce qu'il y a aussi un lieu où vraiment le pouvoir s'exerce malgré tout ?
Alors un lieu,
une capitale.
Beaucoup dit, il n'y a pas vraiment de capitale de l'Empire. Ce qui tient lieu de principal rassemblement des princes d'Empire, ce qu'on appelle la Diète, qui est peut-être le Parlement d'Empire hein, pour simplifier, se tient sur convocation de l'Empereur, donc à des dates très irrégulières et dans des villes qui peuvent être différentes à chaque fois. Donc pas vraiment de capitale d'Empire. En revanche, le pouvoir est très fort au niveau de chaque État. Et parmi les princes impériaux, le prince électeur de Saxe, qui est le seigneur de Luther, est quelqu'un de très important qui exerce une sorte de régence en cas de vacance de pouvoir, entre la mort d'un empereur par exemple et l'élection du suivant. Et lui a un réel pouvoir sur ses états.
Et tout ceci va peser évidemment très lourd dans la manière dont les choses vont se dérouler pour Luther.
On le verra avec vous. C'est vraiment très important.
L'empereur, bien sûr, c'est Charles Quint.
Alors, c'est Charles Quint au moment de la confrontation avec Luther.
C'est à Charles Quint qu'il aura affaire essentiellement.
Donc il va rencontrer notamment à Worms en 1521.
Si on resserre sur l'Église maintenant, Yves Krummenacker, quelle est l'importance, la puissance et l'organisation de l'Église de cette fin de Moyen-Âge, début XVIe siècle ?
Alors, c'est une question qui a été beaucoup débattue.
Elle est complexe ?
Elle est complexe. Pendant longtemps, on a parlé d'une crise de l'Église, des abus de l'Église, en mettant en avant la mauvaise conduite des clercs, notamment le fait que le pape se conduise beaucoup plus comme un prince séculier qui cherche à agrandir ses états plutôt que comme le responsable de l'Église. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas parce que le pape part en guerre qu'il ne se soucie pas forcément de ce qui se passe dans la chrétienté. Et puis, il n'est pas seul. Il y a des cardinaux, il y a des évêques, des archevêques qui se conduisent plus ou moins bien, mais on en trouve quelques-uns qui sont tout à fait pieux et tout à fait soucieux des âmes des fidèles.
Ceci dit, les abus sont réels, malgré tout ?
Les abus sont réels, importants. Le tout est de savoir ce qu'on appelle abus. C'est-à-dire que si on prend le cas des prêtres ou des moines, ils ne se conduisent pas forcément selon la règle, dans le cas des religieux, selon la règle de leur ordre, au moins la règle primitive de leur ordre. Les prêtres peuvent avoir une concubine, peuvent fréquenter les laïcs plus qu'il ne conviendrait. D'après les critères, mais qui sont plus les critères de la fin du XVIe siècle, du début du XVIIe siècle, les critères de la réforme catholique. Tant qu'il n'y a pas d'inconduite manifeste, ces comportements ne choquent pas toujours les paroissiens. Et qui peuvent être même assez contents d'avoir un prêtre qui leur ressemble, qui peut vivre un peu de la même manière qu'eux.
RCF, la suite de l'histoire.
Est-ce que la question du cumul des charges, par exemple, est quelque chose qui pose problème ?
Alors, c'est un problème possible. Ce cumul des charges s'explique essentiellement par des problèmes financiers, c'est-à-dire qu'une simple charge, ce qu'on appelle un bénéfice, on distingue le bénéfice donc qui rapporte de l'argent et l'office qui est la charge proprement dite. Les bénéfices qui sont souvent fondés sur la terre ne suffisent plus pour vivre en raison de ces transformations économiques évoquées tout à l'heure, ce qui fait que beaucoup vont chercher à cumuler ses bénéfices, ses offices, donc ses charges. Et comme on ne peut pas, évidemment, exercer sa charge au même endroit en même temps, on est obligé d'avoir des remplaçants, des vicaires, qui sont quelquefois moins bien formés, qui peuvent être moins scrupuleux que les prêtres. Mais là encore, c'est pas forcément une règle absolue.
Alors évidemment, le mot qu'il faut prononcer, c'est celui d'indulgence, sur lequel on reviendra de manière plus précise, Yves Kremenacker. Mais ça fait partie, disons, des pratiques qui vont beaucoup choquer Luther et qui vont être à l'origine aussi de ces 95 thèses.
Oui, alors c'est une question très complexe qui repose en fait sur la vision que l'on peut avoir du salut. Les indulgences devraient permettre de gagner plus rapidement son salut. Elles reposent sur l'idée que l'homme peut, par ses propres forces, avec l'aide de Dieu, mais quand même par ses propres forces, gagner son salut.
Et l'aide de son porte-monnaie un peu quand même.
Alors, comment en gagner? C'est éventuellement en donnant de l'argent à l'Église. Qui promettra en échange d'aller plus vite au paradis et donc d'économiser de très nombreuses années de purgatoire. Mais ça peut évidemment être détourné à des fins plus discutables assez facilement.
On revient là-dessus avec vous dès demain, Yves Kremenacker. Merci beaucoup.
Merci.